Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Constance Bien-Aimée, l'organisatrice du Printemps des sciences humaines et sociales de la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Et je suis très heureuse d'accueillir pour cette nouvelle rencontre Joël Zask et Paul Carry. Quelques indications pratiques avant de démarrer. Donc, comme d'habitude, la rencontre se fera en deux temps. Une conversation d'environ 45 minutes entre Joël Zask et Paul Carry, que je remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, suivi d'un temps d'échange avec le public grâce aux questions que vous pouvez nous faire remonter via le chat en cliquant sur Converser au bas de votre écran. Voilà, je cède maintenant la parole à Paul Carry et je vous souhaite une très bonne rencontre.
Eh bien, bonjour à toutes et tous, hein. Bienvenue à ce séminaire de la Mèche dans le cadre du 13e printemps des SHS qui est consacré cette année au végétal. Bienvenue également à Joël Zask, hein, que nous recevons notamment pour son ouvrage Quand la forêt brûle. Je montre ici aux éditions Premier Parallèle. Hein. Et le thème avait été choisi l'an dernier car vous n'avez pas échappé qu'il y avait eu de nombreux méga feu l'an dernier, donc on touche du bois pour que cette conférence ne lance pas un nouveau cycle de feu. Joël Zask, donc bienvenue. Vous enseignez la philosophie à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez rédigé de nombreux ouvrages finalement autour de la question de la démocratie, alors notamment à partir de la pensée de John Dewey et de la question d'un public, hein, finalement, comment on construit un public en démocratie. Et donc, ces questions, vous les traitez pas uniquement par une approche spéculative, mais vous tentez, c'est tout l'intérêt de votre réflexion, de les traiter autour de questions brûlantes, hein, comme celle notamment de notre relation à la nature, alors il faudra qu'on discute ce qu'on met derrière, et au sauvage. D'ailleurs, hein, vous nous avez annoncé que sortira le mois prochain un ouvrage intitulé Face à une bête sauvage sur cette question éventuellement de la cohabitation avec les animaux sauvages dans les villes. Alors, ça vous permet également de plaider cette réflexion sur une remise au goût du jour de l'agriculture comme pratique démocratique, hein, en moyennant quelques conditions. Alors, c'est tout l'intérêt de votre ouvrage précédent, enfin, l'un de vos ouvrages précédents qui est la démocratie au champ. Bon, bref, vous êtes une penseuse du présent, des défis contemporains, ce qui rend votre pensée stimulante, mais également ouverte au débat, hein, comme on va essayer de le montrer, principalement donc à partir de votre ouvrage Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique, mais également à partir d'autres réflexions de textes que vous avez écrits. Donc, pour lancer cette discussion, la première remarque, la première question, c'est que bon. Votre livre part d'un constat qui est l'existence d'un nouveau phénomène, hein, qui sont les méga-feux. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui les caractérise, hein, ces méga-feux, et en quoi ils différeraient des feux de forêt, entre guillemets, habituels que nous connaissons depuis des millénaires?
Alors d'abord, bonjour à tout le monde, merci de votre invitation. Et en ce qui concerne les méga-feux, en fait, ça n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup. L'Australie a plus brûlé cette année que l'année dernière et pour l'Amazonie, c'est juste catastrophique. Donc il y a eu aussi des très grands feux en Californie. Donc ça continue et je pense que les conditions sont réunies pour qu'il soit très difficile de les contrer. Alors justement, une caractéristique première du méga-feu, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter, c'est qu'on ne peut pas l'éteindre. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle le complexe industriel du feu, c'est-à-dire toute cette industrie qui se développe pour parer la propagation d'un feu de forêt, que ce soit en termes de produits retardateurs, de machines, de détecteurs, d'exosquelettes, de pompiers, de matériel, etc., ne suffira pas à éteindre ces feux qui ne meurent que de causes naturelles, pour ainsi dire, c'est-à-dire quand il se met à pleuvoir ou à neiger, ça a été le cas en Sibérie, ou quand la matière sèche vient à manquer complètement. Donc, et justement, on avait commencé dans les années 2016-2017, qui est l'époque où j'ai commencé ce livre, suite à l'incendie d'une forêt qui se trouve du côté dans le Var, du côté de Toulon, enfin du côté de Bormes-les-Mimosas plus exactement, et que je connaissais bien. Je me suis renseignée, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'anormal justement dans l'intensité de ce feu qui avait comment dire, brûlé jusqu'à la racine des grands arbres. Et donc je me suis renseignée et j'ai vu que dans le monde anglo-saxon, on commençait à essayer de trouver des termes pour désigner justement un nouveau régime de feu Donc, on rencontrait le terme de « very large fire », de très grands feux, de feux extrêmes, de « beast » aussi. C'est un terme qu'on rencontrait en Californie. Mais en tout cas, voilà, un ensemble d'efforts terminologiques pour distinguer ces feux des feux, des feux habituels. Alors, ces feux habituels, enfin, ils ne sont pas si habituels que ça, mais surtout pas quand on est urbain. Mais cela dit, sont des feux que Stephen Pine, qui est un historien du feu, a classé en plusieurs types de régimes. D'abord, il y a le régime qu'il appelle naturel, du feu naturel. Et ça, ce sont des feux qui sont provoqués par des éclairs partant d'orages secs. Il y en a pas mal, mais à l'échelle de l'existence humaine, ce n'est pas énorme. C'est infiniment moindre que les feux dont les causes sont anthropiques et qui représentent aujourd'hui 98% des départs de feu. Donc, il arrive qu'il y ait des pluies d'orages secs. Ça a été le cas, par exemple, en Californie, plutôt dans le nord de la Californie, il y a 2 ans. Mais ça n'est pas habituellement, non, ça n'est pas le cas. Après, il y a un deuxième régime de feu que Stephen Pine met en évidence, c'est justement ce qu'il appelle les feux aborigènes ou traditionnels, et auxquels on donne les termes de écobuage, feu dirigé, feu contrôlé, et choses de ce genre, qui sont des feux saisonniers, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, comme l'analyse Stephen Pine, depuis 2 millions d'années, c'est-à-dire depuis Homo erectus, les hommes, partout où ils vont, mettent le feu. Et d'ailleurs, là où ils ne peuvent pas aller, là ils ne peuvent pas le mettre le feu, ils ne vont pas d'ailleurs. Et du coup, ils en sont venus à façonner le paysage terrestre par des pratiques de feu qui sont excessivement anciennes. Et puis après, il y a ce qu'il appelle les feux industriels, c'est-à-dire la combustion qui est provoquée justement par l'utilisation d'énergies fossiles donc qui restitue dans l'atmosphère le carbone qui avait été emprisonné. Et ça, c'est encore un type de feu. Et on dirait que ce type de feu-là est justement responsable des méga-feux, c'est-à-dire que clairement, ces méga-feux appartiennent en tout cas à un autre régime que ces feux industriels, puisqu'ils échappent aux feux industriels. Ils s'en sont en quelque sorte des accidents, à part des symptômes de leur caractère destructeur, et ils ont aussi un caractère tout à fait accidentel. Et ce qui les caractérise par rapport à tous ces feux, c'est leur étendue déjà, leur intensité. Ils sont parfois 5000 fois plus intenses que ce que pourrait éteindre un canadair normalement constitué. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans des proportions absolument énormes. Et puis, ce qui est aussi, je dirais, particulier aux méga-feux, c'est qu'ils sont vraiment liés au dérèglement climatique dont les activités humaines sont responsables. Et ça, ce n'est pas le cas des autres types de feux. Donc, il y a tout un ensemble. Après, il n'y a pas de consensus. Ce n'est pas une nouvelle catégorie qui serait imposée dans les sciences, etc. C'est vraiment le tout début. Mais il n'y a pas vraiment de consensus. Sinon, celui de dire le méga-feu, c'est un feu qu'aucun moyen humain existant ne peut dominer, ne peut maîtriser.
Alors, vous venez de l'évoquer un petit peu sur la cause des méga-feux. Alors, dans votre ouvrage, vous le montrez bien. Certains évoquent parfois le mauvais entretien de la forêt, mais comme vous l'avez dit, la question du changement climatique semble centrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
En fait, les dérèglements climatiques sont responsables, bien sûr, de l'augmentation des périodes de sécheresse, de l'élévation des températures. Alors, en général, les méga-feux se déclenchent à l'occasion de températures extrêmes. Ça a été le cas en Australie, ça a été le cas en Californie, en Sibérie aussi, où on a atteint plus de 40 degrés. Et donc, l'augmentation des températures dessèche la végétation qui s'enflamme à la première étincelle. Par ailleurs, l'augmentation des températures est propice au développement de certaines espèces nuisibles qui s'attaquent aux arbres et donc qui les tuent et augmentent la quantité de matière sèche, donc de combustible, ce qui n'est pas bon non plus. On peut aussi parler de défrichage. Ça, il en a beaucoup été question en Amazonie. Il y a eu d'ailleurs des confusions assez coupables entre la destruction de la forêt amazonienne par les latifundistes et les pratiques d'éco-buage, par exemple au Congo à l'époque. Voilà, on avait tout mis dans le même panier, alors qu'en fait, c'est des pratiques très très différentes. Et en Amazonie, d'ailleurs, ça a commencé, je crois que le L'acte fondateur de la destruction de la forêt, c'est John Ford qu'on est responsable avec Fordlandia, hein, en 1910. Il va brûler 1 million d'hectares en les arrosant, en les faisant arroser de kérosène. Et là, on a un peu tous les ingrédients du méga-feu, c'est-à-dire qu'il détruit la forêt, il détruit tout un écosystème. Pourquoi ? Pour planter des EVA destinés à produire du caoutchouc qui lui assurait une indépendance par rapport au caoutchouc d'Asie dont il a besoin pour ses pneus de voiture. Et qu'est-ce qui se passe ? À la place de la forêt amazonienne, de la forêt vierge, c'est une forêt d'EVA, une plantation d'EVA qui voit le jour. Et cette plantation, en fait, ne produira jamais le moindre litre de latex parce que les EVA qui sont en contact les uns des autres, alors que naturellement, ils poussent entre d'autres plantes qui les protègent les maladies des uns des autres, en quelque sorte. Donc, une fois qu'ils sont en contact, ils se transmettent des maladies. Alors, il y a eu des champignons, il y a eu des virus, il y a eu toutes sortes de choses, ce qui fait qu'ils sont tous morts. Et là, c'est vraiment ce que Annette Singh appelle le régime de la plantation. Ça donne aussi une indication sur la vulnérabilité croissante de la forêt, parce que plus une forêt est uniforme, et plus elle brûle, en fait, moins elle a de ressorts par exemple, vous avez des cyprès, un certain nombre de chênes, notamment les chênes lièges, sont des retardateurs de feu. C'est connu que dans les forêts, il y a toujours des arbres qui sont des retardateurs de feu. À partir du moment où vous avez des étendues à l'infini de pin douglas ou de EVA ou de palmiers à huile, c'est terminé. Cette protection, elle ne joue plus. Et en plus, les arbres se fragilisent les uns les autres. Et donc, sont d'autant plus vulnérables aux flammes, puisqu'ils sont, ils tendent à mourir, quoi. Ils ne sont pas aussi gorgés de sève que les autres. Donc, ça, c'est un autre problème. Alors, il y en a plein, hein. Je sais pas. Mais le défraîchage de la forêt destinée à la plantation ou à l'élevage, ça, c'est vraiment aussi une contribution malheureuse des activités humaines à la vulnérabilité de la forêt quant aux flammes. Donc, c'est énorme, voilà. Bon, après, il y a d'autres facteurs comme je pense que j'en ai dit pas mal.
Non, juste peut-être pour revenir un tout petit peu sur ce point, la question du terme de forêt aujourd'hui englobe donc des réalités très différentes, à la fois la plantation d'arbres sur le modèle industriel, mais qui n'aurait plus grand-chose à voir avec la forêt, et également la forêt telle qu'on la connaît traditionnellement, c'est bien ça. Au sens de... Et donc, on aurait, sous l'influence du capitalisme, avec les concepts de plantatio-saine que prennent certains, ou celui de régime de la plantation d'Annette Singh, une sorte de nouvelle mise en œuvre de la plantation, mais qui ne correspond pas au service, entre guillemets, hein, rendu par la forêt telle qu'on la connaissait.
Mais non, oui, c'est ça, il faut... on parle volontiers de ces forêts de plantation, de ces forêts de rendement, comme de déserts boisés ou d'usines agrumes ou d'usines à bois. Enfin, si vous voulez, c'est pas du tout des forêts en réalité. Je crois qu'il faudrait utiliser le terme de forêt pour désigner justement ces ensembles extrêmement pluralistes, multiformes, divers, qui forment un écosystème. Mais la forêt industrielle n'est pas un écosystème du tout. D'ailleurs, il n'y a pas de vie dans la forêt industrielle. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un problème nouveau aussi. C'est que, comme je l'ai analysé dans la démocratie au champ, c'était à l'égard, surtout évidemment, de la distinction entre l'agriculture industrielle et l'agriculture non industrielle, traditionnelle. Enfin, sauf que là, la période à laquelle je pense est 1740-1780, donc on est vraiment il y a très très longtemps, qu'on commence déjà à analyser l'opposition entre ces deux formes, disons, entre ces deux formes d'agriculture, ces deux formes d'exploitation de la terre, l'une qui n'est pas vraiment une exploitation, mais qui est plutôt, une forme de dialogue avec la terre pour en tirer sa subsistance, et puis ce régime extractiviste dont les physiocrates, l'école physiocratique s'est fait la spécialiste avec des gens comme De Pont de Nemours, Trudeau, etc., et qui, considère la culture de la terre comme une source de profit à condition justement d'y implanter des formes industrielles ou des formes de rendement extrêmes. Et donc, ils seront tout à fait en faveur, en particulier, des cultures de coton et de tabac. Donc, on sait bien qu'il y a une grande. Enfin, on parle du coton et du tabac comme de cultures qui sucent le sang de la terre et qui, par ailleurs, nécessitent l'esclavage, nécessitent l'épuisement des sols, l'engrais, évidemment. L'engrais va venir tout de suite après, sur la base de la chimie, de la boisée, tout ça. Donc, c'est un système, c'est vraiment un système. Et le système de la plantation, moi, je trouve qu'il faudrait vraiment l'étendre à l'agriculture industrielle pour y comprendre quelque chose. Parce que parler de forêt, c'est pas. C'est aussi déplacé, je trouve, à propos de ces plantations, que de parler de culture de la terre à propos des étendues sans fin de maïs transgénique ou de soja. C'est pas du tout du même ordre, en fait. Ce qui est une thèse de Clifford Geertz, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est sa thèse. Il a fait sa thèse sur cette question-là en 66, je crois. Il appelle ça involutive. Agriculture, je ne sais pas si ça a été traduit, et il oppose deux régimes. Justement, son terrain, c'est la forêt indonésienne, et donc on est très en avance, si je peux dire, par rapport à l'escolaire. Donc c'est une forêt cultivée, mais justement, elle est cultivée de deux manières. Il y a le système de la rizière qui correspond au coton et au tabac. Si vous voulez, c'est une portion de la forêt qui dépend entièrement des soins humains. Alors, si on peut parler de soins, de l'exploitation humaine, et qui a un système artificiel avec, disons, une mise en eau, qui suppose aussi l'exploitation d'un très grand nombre de ressources, en fait, et de main-d'œuvre. Et puis la culture sur brûlis, par ailleurs. La culture sur brûlis, donc, est évidemment un écosystème beaucoup plus fragile, mais enfin, qui dépend, enfin, qui est. Qui est relatif à une certaine quantité de population, mais en tout cas qui a par ailleurs, une fois que l'écosystème est bien en place, une durabilité extrême, puisque ça a duré des dizaines de milliers d'années, en fait, ce système de culture sur brûlis, tant que la population est proportionnée à ce que la forêt cultivée peut produire, en quelque sorte. Il en va de même du bush australien. Le bush australien, c'est un paysage qui est à la fois, qui est entretenu par des activités de subsistance. Et c'est une forêt, enfin, c'est un bush, quoi. C'est vraiment une forêt, mais ce n'est pas du tout une plantation.
Merci pour la réponse. Alors, peut-être passer un point un peu différent. Bon, vous soulignez bien par les descriptions, des recueils de témoignages, comment les méga-feux touchent les gens dans leur chair, hein, notamment parce qu'ils ne laissent plus rien de visible. Ça peut créer des troubles psychologiques, hein, une angoisse du retour du feu chez certains. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu éventuellement, est-ce que vous pensez que le concept de solstalgie qui est très en vogue actuellement s'applique à ce genre de phénomène?
Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est peut-être c'est le bon terme. Et de fait, c'est le point de départ de ce travail. Ça a été le point de départ de ce travail quand je me suis retrouvée dans cette forêt que je connaissais très bien et qui avait entièrement brûlé. J'ai eu envie de réfléchir à ce qu'est le paysage du point de vue de sa disparition, en fait. Et l'expérience de la disparition du paysage fait réaliser l'importance du paysage pour soi et le fait qu'il ne s'agit pas du tout d'un spectacle extérieur ou d'un lieu de contemplation ou d'un artifice esthétique qui viendrait embellir, enjoliver notre triste quotidien, mais non, il s'agit d'une partie de soi. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé beaucoup dans les témoignages des gens qui ont perdu justement leur coin de forêt, voire leur maison et leur environnement, qui ont le sentiment d'avoir perdu une partie d'eux-mêmes. Ils parlent d'amputation, de cicatrices inguérissables, de deuil. Beaucoup, beaucoup parlent de deuil. Et j'ai trouvé... Enfin, c'était un peu le sentiment que j'avais, sauf que cette forêt, je la connaissais, mais elle ne constitue pas ma maison, mon habitat, si vous voulez. Mais effectivement, sans aller aussi loin que les thèses solastalgiques, en quelque sorte, on peut dire que les paysages qui font partie de nous sont des paysages dans lesquels se thésaurise ou est thésaurisé un certain nombre de pans de notre existence passée, voire celle de l'existence de ceux qui nous précèdent, mais c'est en même temps, donc tout ça disparaît. Ce qu'emportent les gens à partir du moment où il y a une menace de feu, c'est les photos, en fait. C'est la première chose qu'ils essaient de sauver de leur maison. C'est des photos parce qu'une fois que le feu est passé, il n'y a plus rien. Et donc, il y a ce thème biblique de la désolation, je pense, qui explicite clairement le sentiment de perte qui est lié aux cendres et aux ruines, à la destruction du paysage par les flammes. Et cette destruction, elle est vraiment très, très violente parce que ce qui est parti ne reviendra pas, si vous voulez, c'est irréversible. C'est-à-dire, et dans le cas des méga-feux, c'est même la forêt elle-même qui ne reviendra pas, en fait, puisque, comme je l'ai dit, les méga-feux brûlent jusqu'aux souches des grands arbres. Donc, il faudra des centaines d'années pour que les forêts qui ont été ravagées par des méga-feux reviennent à leur état primitif, si tant est qu'on puisse parler d'un état primitif de la forêt, parce que même ça, c'est un peu douteux. Donc voilà, cette expérience de la disparition pérèque en quelque sorte, cette disparition à la fois un peu ineffable et irréversible, provoque un sentiment d'effondrement, en fait, un sentiment d'irréparable qui vous prive de tout un... disons, une zone de contact avec le réel. Et c'est vraiment douloureux parce que c'est un peu comme si vous étiez suspendu dans les airs, comme si les preuves, en quelque sorte, les traces, les marques, les documents de votre existence avaient disparu. Ce n'est pas par hasard que dans tous les régimes fascistes, on brûle. On brûle parce qu'on fait disparaître. Enfin, pour faire disparaître quelqu'un ou quelque chose, on le brûle, en fait. Et la destruction par le feu... et qu'elle soit volontaire ou pas, cette destruction par le feu est, disons, est produit une éradication d'un ordre très très particulier, je dirais, par rapport aux autres formes de destruction. D'ailleurs, la guerre par le feu, c'est une guerre spéciale. C'est une guerre qui ne ressemble pas à la guerre par l'extermination des habitants, parce que justement, la guerre par le feu, c'est pas la guerre du feu, hein, c'est quand il y a tout le temps des épisodes dans la guerre, on brûle on brûle l'habitat, on brûle les villes, on brûle les plantes, les cultures, on brûle les villages, etc. Et là, sans tuer personne d'ailleurs, mais en fait, c'est une manière de les tuer, les gens. C'est bien connu. C'est une manière de les démoraliser et du coup de les abattre psychiquement. Et puis aussi, c'est une manière de les décourager quant à la défense de leur territoire, puisqu'il n'y a plus rien à sauver, si vous voulez. Donc ça, c'est depuis toujours, hein, la guerre qui consiste à mettre le feu est une guerre particulièrement violente et très efficace en même temps parce qu'elle est un peu sans peine. Et puis, il y a aussi, donc là, je parle plutôt de la relation au passé, mais la relation à l'avenir aussi est oblitérée, en fait, d'une certaine façon, parce que justement, les paysages qu'on connaît bien et qui font partie de nous sont des paysages... non seulement dans lesquels on a nos marques qui nous viennent de nos expériences passées, ce qui inclut les générations passées, mais c'est aussi, des tremplins de transmission. On adore partager les endroits qu'on aime avec nos proches ou avec nos amis, etc. Et c'est justement cette transmission qui ne peut plus avoir lieu. Donc, qu'est-ce qu'on transmet quand tout a brûlé, si vous voulez? Ça, c'est très compliqué. Je crois que c'est des questions qui se posent de manière très affective, en fait, et très douloureuse. Pour beaucoup de gens. Donc, je pense qu'il y a à repenser le paysage à l'aune de l'intériorité de l'expérience du paysage qui constitue le rapport des individus à la temporalité qui est celle de leur existence, qu'il s'agisse du passé, du présent ou de l'avenir, en fait.
Merci. Alors, dans votre ouvrage, il y a beaucoup d'entrées sur le phénomène qui sont un peu thématiques. Hein. Vous avez évoqué la guerre par le feu ou même un passage sur des nouvelles formes de terrorisme. Peut-être qu'on va privilégier maintenant une entrée par la question de l'urbanisme contemporain. Et notamment, alors, c'est pas forcément tous les méga-feux, mais au moins pour l'urbanisme des États-Unis et pour le cas de la Californie. Vous soulignez combien... la vision d'une maison proche de la nature, hein, qui a pu être associée à une forme de rêve américain à un moment donné, a pu conduire à ce genre de désastre. Et dans d'autres textes également, vous soulignez qu'il est nécessaire aujourd'hui de repenser les vies. Alors, est-ce que vous pouvez développer? Est-ce qu'il faudrait repenser nos villes, mais est-ce encore possible avec les métropoles contemporaines sous la forme, par exemple, de cités-jardins ou sous les espaces différenciés des cités médiévales, hein, je pense au vieux schéma, notamment le géographe Cristaller, hein, sur la répartition des cultures en fonction des distances.
Hein. Oui. Alors, pour terminer avec l'histoire des méga-feux, en fait, comme vous l'avez dit, disons que le dérèglement climatique est une cause vraiment fondamentale, mais il y en a une autre et qui se répercute vraiment au niveau de l'organisation typomorphologique de la ville, c'est une certaine relation romantique à la nature, une vision, un peu sacralisée, mythique d'une nature vierge dont il faudrait conserver des portions authentiques sans y changer quoi que ce soit, ou qu'il faudrait retrouver pour l'intégrer en quelque sorte dans notre intériorité afin de nous coupler au rythme naturel et de s'en sentir partie prenante en quelque sorte, faire partie de la nature. Moi, je ne pense pas qu'on fasse partie de la nature. Enfin, aucun être ne fait partie de quoi que ce soit. Les êtres participent d'eux, ils ne font pas partie en fait. Et c'est ça un écosystème. Je veux dire, même un ver de terre, il ne fait pas partie de la terre. Il participe de la terre, mais il n'en fait pas partie. Et ça, c'est des distinctions moi, qui m'importent du point de vue de la philosophie politique. Mais je dirais qu'il y a dans la ville, aujourd'hui, notamment dans l'idéologie du verdissement, de l'écologisation de la ville, quelque chose qui rappelle cette vision romantique de la nature. Alors, pour revenir encore une fois au méga-feu, je dirais que cette vision romantique de la nature est à l'origine d'une politique qui s'est répandue un peu partout dans le monde occidental, qui est la politique d'extinction des feux à la première étincelle. Pourquoi ? Pour protéger la nature, parce qu'on a vu que le feu, c'était l'ennemi de la nature. Et évidemment, ceux qui mettent le feu, c'est-à-dire les peuples autochtones, les aborigènes, les paysans, sont aussi des ennemis de la nature. Alors, ça va toujours ensemble, hein. Les écocides et les ethnocides vont toujours main dans la main, ça c'est quelque chose qui est important à remarquer. Et donc, on a à la fois éteint mis sur pied des systèmes d'extinction des feux dès la première flamme, quelle qu'ait été la cause des feux, et par ailleurs interdit le recours aux feux dirigés, aux écobuages, détruit ce qu'on appelle en Corse la culture du feu, etc., etc. Et détruit les peuples, bien sûr, qui pratiquaient ces feux, notamment les aborigènes en Australie, par exemple. Donc, ou les Amérindiens à qui on doit, par exemple, les paysages des grandes plaines américaines, qui sont des paysages du feu, si vous voulez, des paysages de feu aborigènes, qui étaient d'ailleurs très propices à la pousse d'herbages qui attiraient les bisons. Donc ça, c'est un écosystème, si vous voulez. Il y a l'herbe, il y a les feux, il y a les gens, il y a les bisons, il y a des périodes de chasse, il y a des périodes de culture. Voilà, et tout ça, en brûlant ce paysage, les Amérindiens, d'une certaine façon, ils cultivaient la terre en même temps qu'ils semi-élevaient ou qu'ils semi-domestiquaient les bisons. Enfin, c'est comme ça que les choses peuvent être vues. Le résultat, c'est que, d'une part, les forêts qui ne sont plus entretenues, alors que c'était des forêts pour beaucoup, c'est le cas de la forêt méditerranéenne, de la forêt californienne, de la forêt amazonienne, de la forêt australienne. Alors que ces forêts étaient habituées au feu, en quelque sorte, à des feux d'entretien, elles sont privées de ces bons soins et que du coup, elles vont s'encombrer de matières sèches et se refermer aussi. Là, je l'avais étudié un peu partout, que ce soit en Corse ou Plateau des Mille Vaches, où il y a une lutte contre la fermeture des paysages, ce qu'on appelle la fermeture des paysages, parce que ça, c'est pas bon pour la biodiversité, mais c'est pas bon non plus pour les feux. Je veux dire, la forêt, elle manque de résilience et elle est complètement fermée. Il faut, et surtout, c'est un paysage de tourbière dans le plateau des Mille Vaches. Donc, si vous laissez la forêt repousser, il y a plus, les tourbières en fait, sont absorbées. Et puis, en plus, quand ça brûle, ça produit une quantité de méthane qui est absolument invraisemblable. C'est le cas de la Sibérie. Enfin, toutes les forêts humides au Groenland, en Sibérie, qui brûlent aujourd'hui, sont des contributrices hallucinantes à l'émission des gaz à effet de serre. Enfin, ça, elles y contribuent pour plus d'un tiers hein, à l'heure actuelle, donc, les feux de forêt. Je pense. Donc, c'est pas un détail. Et donc, il y a un autre phénomène donc, qui va aussi fragiliser les forêts et donc être favorable au développement des feux, c'est le fait des urbains, en fait, le phénomène des urbains fatigués de la ville et qui vont se régénérer à la campagne. Et donc, ils se font des maisons dans les bois. Ça aussi, donc, il y a eu toute la mythologie de la cabane, la maison dans les bois. Bon, ça va au début du 19e siècle ou même à la fin, mais là, aujourd'hui, ça pose vraiment des problèmes très graves. Ce qu'on appelle le mitage, la dispersion de l'habitat dans les forêts, de la part d'ailleurs de gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui mettent le feu au lieu de le pratiquer intelligemment ou de l'éteindre, ou savoir l'éteindre. Donc, et aussi un énorme problème qui fragilise beaucoup les environnements qui constituent nos conditions d'existence humaine. Hein, je ne parle pas de la Terre en général, qui, elle, ne risque pas grand-chose, évidemment. Mais nos conditions d'existence humaine sur la Terre sont vraiment très, très impactées par ces questions de méga-feu, beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, cette ville qui se construit en quelque sorte contre la nature, en la rejetant à l'extérieur et qui ensuite préconise de la sanctuariser afin d'aller s'y régénérer, ça crée une espèce de logique infernale qui s'avère non durable pour les villes comme pour les campagnes en quelque sorte, qui donc fragilise extrêmement ces conditions, comme je le disais, d'existence humaine sur la Terre. Donc je crois que effectivement repenser la ville, ça me semble urgent. Ça me semble urgent parce que d'une part, il y a beaucoup de gens dans les villes. D'après les statistiques ou les prévisions, 70% des humains vont habiter en ville à l'horizon 2050. C'est énorme. Et d'autre part, la ville ne produit absolument rien de ce dont elle a besoin. Donc, elle, non seulement elle n'est pas indépendante, mais en plus, elle est carrément prédatrice. C'est un parasite à une immense échelle. Donc, non seulement elle ne produit pas ce dont elle a besoin, qu'il s'agisse de subsistance ou d'énergie, mais en plus, elle rejette vers l'extérieur tous ses déchets. Sans avoir à raser nos villes et à les reconstruire complètement autrement, je pense que réfléchir à l'autosuffisance, ce qui était la condition d'ailleurs de la communauté heureuse d'Aristote, hein, déjà, ce qu'il appelle une cité en fait, et pas une ville, et ce à quoi réfléchissent aujourd'hui un certain nombre d'urbanistes, ça me semble être la priorité numéro un. En fait, si on veut des... Et en fait, réfléchir à l'autosuffisance, ça ne veut pas dire l'autarcie, hein, mais en tout cas, est-ce que la ville contribue à la production d'un certain nombre de choses dont les habitants ont besoin, et ce qui inclut les animaux d'ailleurs, me semble être, constituer un ensemble de pistes extrêmement prometteuses, non seulement pour écologiser la ville, mais non pas la verdir, ce qui reste un geste pétri de mythification naturaliste, si vous voulez, parce que ce n'est pas en mettant des arbres dans des pots qu'on va changer quoi que ce soit à nos problèmes, mais ça me semble aussi être important pour que les gens changent leur mentalité et adoptent les paradigmes écologiques qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. Donc, la quête d'une autosuffisance de la ville aurait aussi une dimension de laboratoire et d'école, en fait. D'école pour penser les choses autrement. Et par exemple, l'agriculture urbaine, hein, que ce soit le jardin partagé, le jardin sur le toit, le potager, les incroyables comestibles, et toutes ces choses-là, justement, transforment en profondeur nos habitudes, nos traditions, nos manières de voir l'environnement, recréer un lien avec la nature, comme on dit. Et je crois que c'est important, de même que quand on a vu quelques animaux qui n'étaient pas très exotiques, d'ailleurs, il pouvait s'agir d'un canard ou d'un lièvre ou d'un daim, dans nos villes, au moment du confinement, on a été émus, mais je crois que cette émotion est vraie, et que c'est un sentiment sur lequel capitaliser, en quelque sorte, pour nous rendre enclins à un changement de pratique.
Alors, peut-être pour rebondir ce que vous avez dit sur votre critique de la wilderness hein, comme représentation d'un sauvage lointain. Alors, vous reprenez un peu l'argument du grand historien Cronon qui dit finalement idéaliser la wilderness, c'est ne plus penser le sauvage qui est proche. Et c'est totalement, je pense, dans la perspective de vos ouvrages à venir ou passés comme Zoo Cities. Mais cependant, qu'est-ce qu'on fait des quelques espaces qui ne sont pas encore sous influence anthropique? Est-ce que vous êtes d'accord avec des gens comme Virginie Maris hein, et son concept de la part sauvage du monde, de, pour ces espaces, préserver, enfin, mettre en place des politiques de non-intervention? D'une certaine manière, comment vous vous situez avec ces pensées qui considèrent quand même qu'il faut préserver un concept, on va dire, fort de nature comme largement extérieur à nous? Alors, vous avez en partie répondu, mais qu'est-ce qu'on fait finalement de ces zones de non-intervention dans une pensée comme la vôtre qui souligne plus une logique d'interdépendance?
Oui, je pense qu'il faut distinguer les différentes terres que nous avons autour de nous, sous nos pieds, dans nos atmosphères, etc. Et que c'est très compliqué de penser la Terre indépendamment de nous. Je ne vois pas très bien comment on fait. Moi, je suis pragmatiste et je crois que nos sciences sont relatives à nos expériences et nos observations et que ce qu'on ne peut pas observer, ce dont on ne peut pas faire l'expérience, on ne peut rien en dire, en fait. Donc, une nature dans laquelle il n'y aurait pas, alors dans l'absolu, hein, une nature où l'intervention humaine n'aurait pas lieu. D'abord, est-ce que ça a été le cas dans le passé? Bon, quand on voit que Homo erectus, depuis 2 millions d'années, qui savait déjà conserver et faire voyager les flammes sans savoir les provoquer, mais met le feu partout où il va et se propage partout sur la Terre, je ne vois pas très bien quelle serait la partie de cette Terre à laquelle nous avons accès par l'intermédiaire de nos observations, de la paléontologie, de nos expériences, etc., aurait été épargnée. À part le sommet inaccessible des montagnes, le fond des océans, le fond de la Terre, la galaxie, etc. Donc, c'est sûr que la planète Mars, si vous voulez, bon, là, ça commence un petit peu. Peut-être on va pouvoir. On commence à intervenir à Mars, mais c'est dans une très faible mesure. En tout cas, on n'intervient pas sur Mercure. Voilà, les zones de non-intervention dans la nature, il y en a énormément, si vous voulez, mais sur la Terre, je ne sais pas s'il y en a tant que ça. En tout cas, pas sur cette terre des hommes, sur cette terre Adama, sur cette terre qui constitue nos conditions d'existence, si vous voulez, humaines, et qui nous précède. Si vous voulez, la Terre en elle-même, elle nous précède de 4 milliards d'années. Elle sera sans doute encore là dans 4 milliards d'années. Je crois qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter de ce point de vue. Maintenant, je pense qu'il faut aussi rentrer après dans le détail des situations. Et donc, il y a des expériences de réensauvagement, rewilding, qui sont extrêmement intéressantes, mais qui supposent une intervention très, très forte, là, pour le coup. Il y a de réintroduire des espèces qui ont disparu, des espèces d'aurochs, afin de tenter de recréer un écosystème, en fait, qui, justement, une fois qu'il serait sur place, pourrait intégrer des pratiques humaines ou pas, d'ailleurs. Peu importe, mais c'est ça, c'est des pratiques qui me semblent très intéressantes. Quant à préserver entièrement, bon, c'est intéressant du point de vue scientifique de préserver des portions de nature de toute influence humaine, si tant est que ce soit possible. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le jardin partagé, justement, et c'est intéressant parce que ce qu'apprend le jardin partagé, alors évidemment, ça se situe à une échelle complètement différente, mais surtout quand le jardin partagé est tout petit, c'est que ce que chacun fait dans son lopin influe sur le lopin d'à côté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas d'étanchéité entre les écosystèmes. Et d'ailleurs, à partir du moment où l'étanchéité est vraiment établie, comme dans une prison, en fait, il n'y a plus d'écosystème. Si vous voulez. La ville s'est pensée comme bulle. Hein. La ville s'est pensée contre, justement, toute influence extérieure, contre le sauvage, contre l'imprévisible, contre la cruauté, contre la terreur, contre toutes sortes de choses. Mais le résultat, c'est que c'est tout sauf un écosystème. Donc, je ne suis pas très convaincue, justement, par les bulles, la sanctuarisation, la protection, l'éloignement Parce qu'il faudrait créer des barrières étanches. D'abord, je ne sais pas dans quelle mesure on peut vraiment les créer. Il suffit de regarder ce qui se passe au niveau des océans. Les océans, on pourrait penser que ça échappe vraiment à l'influence humaine. Bah, pas du tout, ils sont bourrés de billes de plastique et ça, ou d'algues, d'animaux qui sont liés au réchauffement des océans, de la fonte des glaces, etc. Donc, qu'est-ce qui... Je veux dire, ce qu'on sait au niveau de la planète, c'est que tout communique avec tout, en tout cas à l'échelle de nos connaissances, si vous voulez. Donc, ça me paraît compliqué. Après, si on revient même à l'idée des feux, c'est problématique. Par exemple, il y a des forêts donc, qui seraient un peu mises sous cloche et destinées à redevenir en quelque sorte primaires, mais est-ce qu'elles ne vont pas brûler? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que les forêts qui ne sont pas entretenues, elles brûlent. Donc, bah, peut-être que ça fera partie d'un certain préservationnisme de dire bah, tant pis, elles brûleront et on verra ce que ça va donner. C'est possible. Bon, à l'échelle des millénaires à venir, c'est sûr que quelque chose se remettra en place. Mais encore une fois, c'est une question d'échelle. Je pense que c'est vraiment une question d'échelle. Et que la question me semble être celle de la persistance des conditions de vie humaine, en fait, tout simplement.
Dans le chat, je fais un message aux participants. Vous pouvez commencer à poser des questions parce que l'heure tourne. Et bah, moi, je vais continuer en attendant à discuter avec Joël Dask. Sur cette question précisément du sauvage, alors vous insistez notamment dans les textes récents hein, sur l'idée d'une politique de bon voisinage. Alors, en quoi est-ce que cela consisterait, une politique de bon voisinage intra-ville avec le sauvage? Et pour reprendre votre exemple du canard, bon, il est une chose de coexister avec les canards, avec des animaux de plus grande taille dans les villes. Bon, on l'évoquait avant cette conférence, notamment avec les grands mammifères comme les ours. N'est-ce pas un problème, notamment pour les grands mammifères? Et ne faut-il pas, et je rebondis sur ma question précédente, pour ces derniers grands mammifères, je pense aux tigres, aux lions, aux ours, etc., justement, ne leur réserver quelques espaces un peu spécifiques, comme à la réintroduction, le rewilding d'un côté, par exemple, dans les Pyrénées, ou des zones de conservation pour les derniers grands mammifères africains, qui sont voués, hein, je pense aux éléphants, hein, par exemple, à disparaître les choses continuent d'ici à quelques dizaines d'années.
Oui. Je voudrais dire qu'il y a toujours eu des grands animaux dans les villes, notamment des chevaux, par exemple. Ça, c'était le cas avant. Donc, ce n'est pas forcément un problème d'avoir des grands animaux. C'est, disons que la taille, je crois que les moustiques sont beaucoup plus problématiques, parfois les chauves-souris ou les rats, que les ours ou les léopards dans certaines villes indiennes ou les singes dans d'autres villes indonésiennes, etc. Donc, il y a beaucoup d'animaux dans les villes, ça c'est vrai. Et il y en a certains qui sont assez grands. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de coyotes dans les villes nord-américaines. C'est quand même des grands animaux. Il y a des pumas à Los Angeles. Voilà. Donc, et en fait, ce n'est pas si problématique que ça. Ce n'est pas problématique à partir du moment justement où on considère ce qu'est le voisinage. Et ce que je voudrais dire avant de le développer un tout petit peu, c'est que j'ai réfléchi au voisinage, que j'ai distingué à la fois de la juxtaposition et de la cohabitation, et j'y ai réfléchi pour engendrer justement un état d'esprit qui serait propice à la restitution d'espaces naturels ou de milieux naturels aux animaux en dehors, en quelque sorte, de l'habitat humain, en dehors de la ville. Donc, je ne pense pas que la ville soit destinée à accueillir tous les animaux et qu'il faudrait penser la ville comme une arche de Noé ou un lieu refuge, même si elle peut jouer ce rôle provisoirement. Mais faire avec les animaux, s'accommoder des animaux, s'ajuster au voisinage des animaux dans la ville pourrait nous rendre très favorables à des changements d'attitude qui seraient protectrices en quelque sorte de la nature ou en tout cas qui serait beaucoup moins destructrice de l'environnement, ce qui, à terme, voilà, permettrait aux animaux de cesser de disparaître, voire de se reconstruire, de récupérer des forces et du territoire. Maintenant, en ce qui concerne ce voisinage, je dirais que c'est le régime du voisinage, c'est celui de la coexistence, et que ce régime de la coexistence, il est intéressant parce qu'il est très écologique, en fait. Pour la coexistence entre voisins, en fait, il faut aménager à la fois des niches et des corridors, ce qu'on appelle des corridors en écologie, des niches et des passages. C'est-à-dire que, en fait, les voisins ne sont pas des gens qui vivent chez vous. Les voisins sont des gens que vous croisez dans la cage d'escalier, dans la rue, chez le boulanger, etc., etc. Mais ce ne sont pas des gens qui rentrent chez vous. Après, des voisins peuvent devenir des amis, mais ce n'est plus le même statut. Ils ne sont pas non plus des ennemis, si vous voulez. Évidemment, ils peuvent le devenir, mais ce n'est pas le même statut. En revanche, ce qui me semble intéressant, c'est de réfléchir justement à ce qu'il y a de spécifique dans le voisin. C'est-à-dire, le voisin, c'est quelqu'un qui se trouve à proximité géographique de vous. Vous partagez un même espace, ponctuellement. Mais en même temps, à la présence de qui vous devez en permanence vous ajuster, vous adapter, parce que les relations entre voisins ne sont pas du tout des relations institutionnalisées, elles ne sont pas non plus des relations affectives. C'est des relations qui dépendent un peu de ce que Rahn Ottever appelait les liens faibles et qui demandent justement une espèce d'esprit civique que Goffman a mis en évidence et qui est l'ajustement à la situation, si vous voulez. Donc, il faut de l'improvisation, il y a une forme de liberté comme ça dans le voisinage qui vient de ce que chacun doit s'ajuster à l'autre. Alors évidemment, il y a des conventions, ce qu'on appelle les civilités, mais le champ des conventions ne couvre pas toutes les occurrences. Et de même avec les animaux sauvages, je crois que c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que voisiner, enfin, il n'est pas question, moi je pense, justement, de manière très, très factuelle, il n'est pas question de tuer tous les animaux qui viennent en ville, parce que d'abord, ils jouent un rôle écologique, les goélands ou les rats à Marseille. Sont vraiment nécessaires, étant donné l'état sanitaire de la ville. Vous avez, par exemple, des coyotes qui mangent aussi des tas de rongeurs. Je veux dire, il y a beaucoup d'animaux dans les villes qui se nourrissent de déchets, mais il y a aussi beaucoup d'animaux qui se nourrissent des animaux qui se nourrissent de déchets. Donc, il y a tout un... Par exemple, les léopards dans les villes indiennes mangent des chiens errants qui transmettent la rage, etc. Donc, on ne va pas tous les tuer. En plus, ça pose évidemment des problèmes éthiques majeurs. Mais on ne peut pas non plus tous les accueillir, si vous voulez. On ne peut pas leur ouvrir la maison et les faire rentrer chez soi. Il y a des gens qui élèvent des petits sangliers ou un ours, mais enfin bon, d'abord ça pose des problèmes quand ils sont grands. On peut penser aussi aux NAC, là, aux nouveaux animaux de compagnie, enfin, qui est une aberration absolue de mon point de vue, mais en même temps, voilà, c'est très limité. Et puis par ailleurs, vivre à proximité intime des animaux, c'est s'exposer à des zoonoses, hein, on le sait aussi. Donc, il y a des problèmes sanitaires assez graves qui se posent. Donc, c'est ça l'aménagement de la coexistence. Et je pense qu'on peut avoir des solutions très concrètes. Par exemple, il y a des éléphants, vous parlez des éléphants, il y a de plus en plus d'éléphants dans les villes ou dans les zones urbaines. Pourquoi? Parce que les villes s'étendent, les zones périurbaines s'étendent, au mépris des lieux de transhumance des éléphants qui sont ancestraux, en fait. Ce sont des animaux qui empruntent toujours les mêmes routes, que ce soit en Asie, je sais pas, au Sri Lanka, en Inde, en Thaïlande ou en Afrique, au Botswana, au Kenya, etc. Donc, à partir du moment où vous construisez sur les routes des éléphants, bon, ben, eux, ils passent quand même et piétinent tout. En plus, ils sont très rancuniers, donc ça pose un problème. Et puis ils ont pour habitude de... Ils tournent un peu en rond, puis après, ils reviennent et ils écrasent tout et ils s'énervent. Surtout quand ils sont très attirés par l'alcool. Donc, c'est des histoires à dormir debout en ce qui concerne les éléphants. Et donc, on s'occupe maintenant d'aménager justement ce qu'on appelle des corridors pour les éléphants. De même pour les pumas, par exemple. Le territoire d'un puma, c'est vraiment très, très grand. Pour un éléphant, c'est 500 km², donc c'est énorme. Mais pour un puma, c'est aussi très important. Et du coup, l'étalement urbain fait que les territoires des pumas sont un peu disloqués, fragmentés, parcellisés, etc. Et aujourd'hui, est en train d'être construit vers Los Angeles un corridor, justement. C'est un pont d'un kilomètre de... Enfin, il fait plusieurs centaines de mètres de large qui traverse une autoroute et qu'empruntent les pumas maintenant pour passer d'une région à l'autre. Et qu'empruntent aussi, évidemment, plein d'autres animaux. Donc, il y a toutes sortes de corridors aujourd'hui qui sont aménagés par l'observation des besoins des animaux, de leurs besoins de migration, de transhumance ou de déplacement territorial pour la reproduction, la nourriture et choses de ce genre, la chasse, et qui sont respectés et intégrés dans le bâti, si vous voulez. Bon, il y a d'autres exemples de voisinage, éteindre, limiter l'éclairage nocturne. ou filmer ou pacifier les vitres des grands immeubles. Parce qu'il y a des milliards d'oiseaux qui s'écrasent sur les vitres des immeubles chaque année. C'est énorme, la quantité d'oiseaux qui meurent à cause de l'éclairage nocturne et qui les désorientent, ou à cause, pendant les migrations surtout, ou à cause de ce qui... Voilà, ils percutent des vitres dans lesquelles ils se reflètent. Donc, il y a des villes maintenant où c'est obligatoire d'opacifier les vitres des immeubles de l'extérieur. Vous avez aussi, par exemple, l'utilisation d'un certain nombre de revêtements qui sont propices à l'installation de tel ou tel animal ou à la reproduction de tel ou tel animal. Il peut y avoir des nichoirs, il peut y avoir des matériaux rugueux qui permettent à des reptiles de s'accrocher et de grimper. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être tentées, qui ne sont pas d'une complexité cosmique, mais auxquelles il faut penser pour justement voisiner avec des animaux sauvages dans les villes. Et je pense que réfléchir à la ville sur ce mode de voisinage, ça revient aussi à l'aménager afin qu'elle soit favorable à la vie de plusieurs espèces, mais je dirais aussi afin qu'elle soit favorable à la paix entre les voisins. Par exemple, il est indispensable pour des règles de bon voisinage que les murs soient insonorisés. Mais je dirais qu'insonoriser les immeubles y compris les immeubles destinés à la location à loyer modéré, ce qui est rarement fait, ou par souci d'économie, ou mettre des moustiquaires aux fenêtres pour éviter d'utiliser des pesticides à l'intérieur, c'est du même acabit, c'est le même geste. Et encore une fois, le voisinage, c'est quelque chose qui se construit. Cet effort d'ajustement à l'existence d'autrui, quel qu'il soit, qui est quelqu'un ou quelque chose que vous n'avez pas choisi, mais qui se trouve là et avec lequel on est obligé de vivre en quelque sorte, même si on n'en a pas envie, cet aménagement-là, il est crucial en fait. Et je crois que justement, il met bien sur la voie de la compréhension d'un écosystème. Et donc, il fait pencher en faveur d'une attitude écologique.
Oh, merci. Donc, il y a une première question dans le chat. Alors, je vais la lire intégralement parce qu'on est filmé. Donc, de Fanny Pupin. Quel regard portez-vous sur les forêts littorales, forêts naturelles et de plantations, dont les arbres ont été plantés sur le sable et les dunes, en termes de spécificité, de corridor, de préservation du littoral s'il a lieu, et également de spécificité végétale et de leur utilisation en pharmacopée? Merci.
Ça, c'est une question très spécialisée. Moi, je suis philosophe, spécialiste de philosophie politique, donc je ne vais pas trop m'y risquer, mais voilà, je pense j'imagine que suivant les littoraux considérés, les plantes varient considérablement. Il y a en ce moment, j'en avais pris connaissance, une lutte justement pour contre l'implantation de routes sur un littoral dans le sud-ouest du côté de, il me semble, d'Arcachon ou plus bas, voilà, dans les Landes en tout cas. Il me semble, voilà, vous voyez, c'est pas ma spécialité, mais en tout cas en faveur du lézard, enfin d'un lézard qui est très rare, qui n'existe quasiment que là. Et ça, c'est, je pense que cette préservation-là, elle me semble vraiment intéressante parce que justement, le morcellement de ce territoire, non seulement fragiliserait les plantes, et aussi serait tout à fait néfaste pour la biodiversité et la vie de ce lézard très particulier qui n'existe que là, qui serait fortement menacé. Maintenant, la fixation des dunes, voilà, c'est un problème qu'on a un peu partout en France. Et je crois effectivement que laisser faire la nature n'est pas toujours la bonne solution, et que des politiques d'intervention, de restauration des paysages en vue de leur résilience ou de leur durabilité est toujours intéressant. Moi, j'habite à Marseille, les calanques ont été dévastés par les feux. C'était des paysages très, très verdoyants avec des forêts traditionnelles ou très anciennes, méditerranéennes, si vous voulez, des forêts. Donc, il y avait assez peu de conifères, il y avait quelques pins, mais il y avait surtout des arbousiers, des végétations assez basses sous la forme de maquis et des chênes lièges et des chênes verts, bon, voilà ce genre de plantes. Et bien aujourd'hui, on a arrêté de planter du pin douglas pour fixer les collines et on utilise justement, on recourt à ces espèces primaires en quelque sorte qui seraient destinées, d'abord qui sont très variées et puis qui pourraient restaurer le paysage qu'on a perdu à cause des feux en fait. Des feux qui étaient pour l'immense majorité d'entre eux criminels.
Alors,
après, ça répond, mais enfin, ça, voilà, c'est une tentative.
Une autre question de Guilin Is, ou Is, je ne sais pas. A priori, on voisine avec des êtres de la même espèce que nous, les humains, dont nous pouvons espérer des liens de réciprocité. Comment envisager un voisinage sans réciprocité?
D'abord, avec les animaux, il y a beaucoup de réciprocité. Et ce que j'ai découvert à l'occasion de mes études destinées à ce livre qui s'appelle « Face à une bête sauvage », un livre dans lequel je me demande quoi faire face à l'attaque d'une bête sauvage en milieu urbain, puisque j'ai fait l'hypothèse qu'il y en aura de plus en plus, eh bien, je me suis rendu compte que les animaux, d'une certaine façon, vous observent beaucoup plus que vous ne les observez, et qu'ils s'ajustent à une vitesse assez hallucinante, et ils apprennent de vous beaucoup plus vite que vous-même vous ajustez. Ce qui m'a beaucoup frappée, par exemple, c'est le contraste entre les croyances ancestrales concernant le caractère sacré des macaques rhésus en Inde et le fait que les macaques, quant à eux, pendant ce temps, donc ce qui fait que c'est interdit de les tuer ou de leur faire du mal, et le fait que les macaques, eux, ils savent repérer votre objet le plus précieux pour vous le voler, ou en tout cas vous le soutirer et qu'ils ne vous le restituent qu'en échange de nourriture. Donc, c'est aussi, voilà, il y a lieu d'interroger. Moi, je ne veux pas du tout, enfin, j'évite autant que je peux le faire une relation anthropocentrique aux animaux, mais la capacité d'observation, là, il y a quelques jours, j'ai observé un goéland qui était sur la poubelle en face de chez moi en train de se servir, en fait, en tout cas de faire un tri dans les déchets qu'il avait réussi à atteindre dans un sac en plastique, et notre séance d'observation mutuelle a duré vraiment très très longtemps, et je me suis lassée avant le goéland, parce que le goéland, lui, continuait à m'observer, et puis je voyais bien en fonction des gestes que je faisais et de presque de mes mimiques qu'il était plus ou moins sur ses gardes en fait, parce qu'après, au bout d'un moment, il a repris son activité, et puis voilà, il était d'une prudence extrême. Et comme s'il interprétait en fait mon attitude et qu'il évaluait ses chances et ses risques en fait. Donc bon, il est clair que les civilités dont Goffman nous fait la description ne.
Merci. Ah,
bon, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, il y a mon téléphone délire. Voilà, et le. Oui, donc cette réciprocité, cet échange de politesse, ces égards ajustés, comme dirait Morisot, etc. Ouais, pour ça, c'est aussi une forme de réciprocité, d'ailleurs. Voilà, ces échanges de politesse ne sont pas de mise avec des animaux sauvages. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, quand on a affaire à nos voisins, ben, on ne peut pas préjuger... complètement du fait que leur position est identique à la nôtre, qu'on est toujours obligé de faire l'hypothèse que d'où ils parlent, comme on disait dans le temps, leur point de vue, leur motivation, leurs intérêts sont fondamentalement différents des nôtres, et pourtant, et c'est en ça qu'il y a une improvisation, c'est que qu'il faut que le terrain d'entente ou le terrain de rencontre, il doit tout le temps être créé. C'est ce qu'on appelle du commun d'ailleurs, parce que le commun est fait d'une création commune et pas ce à quoi on adhère chacun à part égale en fait. Et le commun ne précède pas en fait, il est subséquent à la création d'un terrain d'entente. Et je crois qu'avec les animaux, on le fait beaucoup en fait. Et je crois pas que ce soit anthropocentrique de dire ça. On va pas parler avec eux, on sait pas ce qui se passe dans leur tête. Mais bon, dans une certaine mesure, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de nos enfants non plus. Mais enfin bon. Et par ailleurs, on n'est pas, comment dire, on ne peut pas dans la ville, dans la grande ville, fonctionner sur la base de l'identique et du proche ou du semblable. Je crois que c'est une très grosse erreur. Les injonctions qu'on a à vivre ensemble aujourd'hui sont juste aberrantes, en fait. Il me semble que ce qui est important dans les villes, c'est qu'effectivement, on puisse se séparer aussi. On puisse se séparer et qu'on puisse se rencontrer, mais qu'il y ait justement une réflexion sur la bonne distance, en fait. C'est ce qui est... Enfin, d'ailleurs, que les gens soient complètement isolés ou qu'ils soient entassés revient absolument au même, en fait. Donc, et cette bonne distance n'est pas sous nos yeux, il faut vraiment la créer. Et je crois que l'effort qu'on a à fournir vis-à-vis d'inconnus et d'animaux n'est pas fondamentalement, pas toujours en tout cas, pas fondamentalement différent, même si justement le recours à la discussion, au contrat, à la promesse mutuelle n'a évidemment pas lieu. Comme le disait Turner, l'environnement, y compris les animaux, ce n'est pas quelque chose avec quoi vous pouvez passer un contrat. Enfin, ça, c'est sûr. Mais voilà, on arrive à trouver des petits arrangements, des accommodements, en fait, qui ne sont pas raisonnables, pour parler comme Taylor et Bouchard, mais qui sont quand même des accommodements. Y compris par l'organisation typomorphologique du mode de vie. Par exemple, bon, c'est sûr que, je ne sais pas, que vous n'avez pas envie de partager votre maison avec des souris, mais il y a quand même des choses à faire pour vous ajuster à l'existence de souris en bouchant tous les orifices de la maison, tout simplement.
Alors, peut-être sur ce point, votre pensée souligne l'importance d'un juste milieu, hein, le bon voisinage dans la ville avec le sauvage ou l'importance des paysages façonnés par l'homme pour la campagne. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu décalé par rapport à ce que fait notre mode de production? On l'a évoqué tout à l'heure, l'agriculture industrielle et intensive. Et donc, est-ce que pour la possibilité d'une politique de coexistence, il faut quand même se résoudre à ces formes de production intensive sur une certaine surface de la planète? En d'autres termes, les formes paysagères, notamment paysannes, que vous évoquez, sont-elles suffisantes aujourd'hui si on veut nourrir 7 milliards et demi d'humains?
Alors ça fait partie d'un autre de mes chantiers prioritaires, c'est que l'agriculture industrielle ne nourrit actuellement que, enfin, disons, produit de la famine d'abord, produit de la malbouffe, c'est évident, et par ailleurs n'apporte que 20% des ressources alimentaires mondiales. Donc, l'idée qu'on a besoin de l'agriculture industrielle pour manger, c'est vraiment, pour le coup, de l'intox. Et là, les chiffres que je cite sont des chiffres de la FAO, donc, et qui datent de 2018 ou de 2017. Donc, il faudrait peut-être les réviser. Mais, si vous voulez, l'agriculture dite traditionnelle et familiale, aujourd'hui, apporte donc 80% des ressources alimentaires mondiales et par ailleurs est détentrice, si on peut dire, ou protectrice de plus de 90% des savoir-faire, des semences, des ressources en quelque sorte culturelles qui ont été longuement accumulées de culture de la terre, d'agriculture en quelque sorte. Donc, je crois que il faut absolument revoir un peu notre copie concernant notre foi en l'agriculture industrielle, et y compris pour la production de l'énergie, y compris pour la production des matériaux de construction, etc. etc. Donc, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens valorisent le meuble qui existe. Ça m'avait frappé personnellement, je ne sais pas, peut-être vous êtes mieux averti, mais je n'avais pas vraiment réalisé qu'effectivement brûler un meuble, c'est libérer du carbone et c'est aussi devenir tributaire finalement de la fabrique d'un matériau de construction de meubles qui sera destructeur de l'environnement ou dont la production est destructrice de l'environnement. Donc, bon, voilà, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire Ça peut être récupérer le bois des meubles pour reconstruire des nouveaux meubles. On a des tas de designers qui font ça aujourd'hui, qui font des meubles d'ailleurs vraiment intéressants. Et ce qui évite voilà, des réflexes de jeter, de consommer, de repartir à neuf, etc. Le recyclage, si les villes, quant à elles, s'occupaient d'autosuffisance, eh bien, elles inventeraient, et c'est ce qui est en train de se passer, toutes sortes de moyens pour justement transformer leurs propres déchets en sources d'énergie ou en matériaux de construction ou en matériaux d'équipement, etc., etc. Et là, bon, il y a énormément de possibilités qui sont en train d'être découvertes et financées par toutes sortes de programmes aujourd'hui, qui sont beaucoup plus intéressantes que les possibilités que nous offrirait éventuellement ce qu'on appelle le transhumanisme, enfin, ce qui n'a rien à voir, qui ne fait que… Bon,
oui. Oui, alors, ce que vous soulignez, c'est notamment ce que souligne bien Jean-Baptiste Fressoz, hein, en particulier sur cette question de l'existence des chiffonniers, par exemple, hein, dans les villes jusqu'à la fin du 19e, hein, même plus tardivement dans certaines autres. Cependant, ce que souligne aussi Jean-Baptiste Fressoz, c'est qu'il n'y a jamais eu, par exemple, de transition énergétique, c'est-à-dire que, finalement, au bois, c'est ajouté le carbone, hein, qui ne l'a pas remplacé. Il montre que les volumes de bois restent à un niveau extrêmement élevé et continuent à croître. Pareil pour le carbone, pareil pour le pétrole. Et notamment, pour revenir justement à cette question du bois de façon contemporaine, peut-être qu'il y a un acteur qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, c'est l'ONF, qui était sous les feux médiatiques ces dernières années, notamment pour un nombre de cas importants de suicide. Est-ce que vous avez des données, des choses sur cette question de la tension dans laquelle est prise l'ONF, l'Office national des forêts, aujourd'hui, entre ce rôle un peu d'intendant des forêts qui correspond à peu près à ce que vous en dites, et puis la pression accrue à la coupe qui change aussi les modèles d'entretien de la forêt. Comment est-ce qu'un acteur public comme celui-ci pourrait peut-être accompagner une meilleure prévention des méga-feux que vous décrivez?
Ben, il faudrait que l'ONF fasse partie ou dépende du ministère de l'Environnement et pas du ministère de l'Agriculture. Je crois qu'il y a quand même si c'est le cas encore aujourd'hui, hein, je crois que c'est un énorme problème. Tant que le rapport à la forêt sera, alors je ne dirais pas productiviste, parce que l'agriculture ou la plantation est toujours productiviste, en fait, même la permaculture est productiviste. On cherche du rendement et ça c'est normal, et l'idéal c'est d'ailleurs les plus grands rendements sur le minimum de surface, c'est ce qui permet, comme le disait Locke d'ailleurs à propos de l'agriculture, que voilà, c'est ce qui permet de rendre de la terre. Et lui, je crois que la justification de la propriété privée chez Locke, elle est indexée sur le fait que à partir du moment où on est pleinement le propriétaire que cultiver donne un droit d'approprier et que l'appropriation est légitimée par le fait qu'en fait, au lieu de priver les gens de terre, on en rend. On rend de la terre à l'humanité. Au lieu d'en parcourir un très grand nombre d'hectares afin d'en tirer sa subsistance. Si vous voulez. Bon, je ne suis pas très convaincue par ce journalisme, mais je trouve que c'est intéressant l'idée que le rendement permet non pas n'accapare pas la terre, mais permet d'en produire, d'en créer, d'en rendre, d'en libérer. Par ailleurs, je pense que de fait, si l'entretien de la forêt est une activité absolument nécessaire, et les forestiers sont des gens. J'en ai surtout rencontré en Corse, pour dire la vérité. Les forestiers, ils savent éteindre des feux avec leurs bottes. Ils vont dans la forêt, ils piétinent les flammes. Ils ont une connaissance du feu qui est vraiment incroyable. Et que les ingénieurs du monde moderne et spécialisés aujourd'hui ne possèdent pas du tout. Mais ils sont effectivement tiraillés entre des injonctions contradictoires, c'est-à-dire de rendre la forêt, alors que je disais non pas productive, mais en tout cas profitable. Donc qu'est-ce qui est profitable aujourd'hui? Et Bon, on sait que c'est ce rapport de profit à la forêt qui peut tout à fait s'accompagner de la plantation de centaines de milliers d'arbres, mais qui, pour le dire comme tout à l'heure, ne produit pas du tout de la forêt, mais produit encore une fois du désert boisé ou de l'usine à bois. Et c'est le cas, c'est un autre. Bon, on sait que beaucoup de multinationales s'achètent une conduite écologique en disant bon, c'est vrai que ceci, cela, mais on va planter 100 000 arbres, mais de quel arbre s'agit-il? Donc, est-ce que l'ONF, souvent, bon, par exemple, le rôle de l'ONF dans l'augmentation du nombre de forêts de pins de glace destinées justement à des coupes et à des pousses très très rapides qui appauvrissent les forêts et les stérilisent en fait, et sont, en plus les rendent très défavorables à la biodiversité. Et, ben, c'est un rôle qui doit vraiment, enfin qui doit leur faire honte en réalité. C'est compliqué.
Je me permets.
À Fontainebleau aussi, je sais que l'ONF a été saisi parce qu'il a été question de supprimer, alors je ne sais pas où ça en est non plus, il y a soi-disant des arbres menacés par l'échauffement climatique, on parle dérèglement, et l'idée était de les enlever. Alors il s'agit d'ormes, de chênes, de frênes, et de les remplacer par des pins. Donc d'anticiper en quelque sorte la mort de grands arbres. En les supprimant et en les remplaçant par des pins à la forêt de Fontainebleau. Donc, pareil dans les Vosges, la forêt des Vosges est aujourd'hui très, très menacée. Il y a un arbre sur deux qui est mort. Elle est très menacée par le feu, en fait. Et donc, si l'entretien de la forêt consiste à la renouveler en réimplantant les espèces qui sont menacées ou disparues ou primaires, c'est un rôle très très différent d'associer finalement la plantation à la rentabilité en fait.
Je me permets de mettre dans le chat le documentaire de François-Xavier Drouet, le Temps des forêts, qui est tout à fait intéressant sur ce qu'on peut appeler la malforestation, notamment actuellement en cours en Limousin, hein, où les plantations de monoculture de pins Douglas que vous évoquez. La contrepartie, c'est aussi des coupes rases, hein, avec une dégradation très forte des sols et l'utilisation très importante d'engrais, hein, pour qu'ils poussent plus vite.
Et de pesticides aussi, hein, sur le plateau de Mille Vaches, il y a vraiment des passages d'hélicoptères d'épandage de pesticides assez régulièrement. Enfin, en tout cas, il y en avait. Donc, c'est impressionnant à voir. Parce que c'est vrai que si le contrôle des pesticides est relativement actif en ce qui concerne les plantes alimentaires, en ce qui concerne le bois, rien n'est moins sûr.
Alors, peut-être pour terminer cette conférence, peut-être une dernière question sur votre ouvrage précédent qui concernait la démocratie au champ, sur l'importance de ce que vous appelez l'expérience paysanne. Hein, et j'ai trouvé intéressante, mais parfois subtile, votre distinction entre cette expérience paysanne et différentes expériences, notamment certains jardins ouvriers, je pense à ceux de l'abbé Lemire notamment, où vous soulignez que c'est plutôt la volonté de contrôle, alors évidemment très présente dans les coopératives, par exemple, soviétiques, mais qui ne permet pas précisément cette expérience. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, et notamment sur cette question de ce que vous appelez l'expérience paysanne comme appui central, hein, c'est votre thèse et c'est tout à fait intéressant, de l'expérience démocratique. Pourquoi ?
Alors, de fait, l'expérience paysanne et l'autogouvernement sont comme le recto et le verso d'une même feuille. Et c'est intéressant de rechercher finalement ce qui, dans cette espèce d'autogouvernement paysan, qui est un autogouvernement qui pouvait intervenir aussi bien au niveau de la production de la subsistance que de l'économie d'échange, que de l'organisation familiale ou que de l'organisation politique de la localité, c'est que justement, il a accompagné ou il a été le terreau, en quelque sorte, de l'essor de formes dites pré-démocratiques, en fait. Que ce soit pour rester en France, en Corse, en Ariège, en Provence, du côté d'Amiens, dans les Ortillonnages, etc. Partout ont existé des assemblées, des foyers, des formes prédémocratiques avec des élections, avec des rotations de responsabilité, avec une certaine représentation au mandat, avec une égalité homme-femme d'ailleurs, avec la lecture de la presse quand il y en a eu, et ceci dès le Moyen-Âge quand on regarde. Et d'ailleurs, il y a même une œuvre préconstitutionnelle en quelque sorte chez les paysans. On peut penser aux paysans allemands et à leur guerre dans laquelle Münzer était si impliqué et qui se sont opposés d'ailleurs à Luther de manière excessivement violente et qui ont été réprimés dans le sang. Et donc, où là, vraiment, on est quasiment un document constitutionnel, avec les droits et les devoirs du paysan et les limitations du pouvoir autre, du pouvoir extérieur, face aux droits constitutifs de l'être humain, qui est le droit de manger et le droit de cultiver, en fait. Et ça s'exprime comme ça, alors c'est un peu mêlé de considérations évangéliques ou chrétiennes, mais ça fait un document qu'on appelle les 12 points, qui est vraiment extrêmement intéressant. Et donc, l'idée que la démocratie naît à la ferme et pas à l'usine, c'est une idée qui est, je pense, qui est historiquement complètement avérée, et qui par ailleurs permet une relecture de nos théories, enfin disons de notre histoire officielle, en fait. Donc c'est à partir de là que vient la distinction que vous avez signalée entre justement l'initiative paysanne d'un côté, dont le jardin partagé est le support, parce que le jardin partagé, c'est ce terrain commun subdivisé en lopin sur lequel chacun jouit justement d'une liberté et d'une initiative, tout en sachant que, comme je le disais tout à l'heure, les frontières de son lopin ne sont pas étanches, et donc il a aussi à s'ajuster au lopin des autres, sans compter que dans les jardins partagés, il y a toujours beaucoup d'activités communes, notamment dans les jardins partagés urbains aujourd'hui. Vous avez par exemple le compost, les semences, l'accueil des publics, l'accueil des scolaires, des choses de ce genre. Et de tout temps, les jardins partagés, qui sont des formes extrêmement anciennes et qui existent à des échelles différentes, se sont présentés comme une combinaison entre l'initiative individuelle et la communauté, en fait, la communauté au sens littéral du terme. Et ça, cette initiative-là, elle est complètement perdue à partir du moment où, à la place de la communauté, se substitue un collectif, en quelque sorte, et à la place de l'autogouvernement, se substitue une injonction à faire ceci ou cela. Et là, on peut penser à toutes sortes d'utopies agraires qui ont été très paternalistes, très autoritaires, très coercitives, fondées sur la division des tâches. C'est le cas de Fourier, par exemple. Fourier qui imagine des ravistes, des pommes de terristes, des carottistes, et qui est beaucoup plus charitable avec les plantes qu'avec les gens, parce que enfin, finalement, c'est en divisant les tâches des humains que les plantes vont devenir compagnes et se marier entre elles. Enfin, bref, le délire de Fourier. Mais on a voilà, comme ça une vision paternaliste aussi qui est assez coercitive, qui va aussi imprégner ce qu'on appelle la Ligue du coin de terre et du foyer, qui est une ligue catholique de droite, en fait, vers les années 1870-1880, et qui va chapeauter le développement, dans cette période très hygiéniste, en fait, du musée social, tout ça, va chapeauter le développement de ce qu'on appelle les jardins ouvriers et familiaux. Bon, heureusement qu'ils ont sans doute un peu échappé au sort qu'on leur réservait, mais qui étaient destinés à régénérer l'ouvrier pour qu'il renouvelle sa force de travail, pour qu'il ne dépense pas sa paye au café, pour qu'il agisse en bon père de famille et choses de ce genre. Et par exemple, les couples qui restaient sans enfants au-delà d'un certain nombre de mois ou d'années étaient privés de leur lopin. Donc il y avait comme ça l'idée de faire du lopin, hein, enfin du lopin dans un jardin familial ou ouvrier, le support des bonnes mœurs, si vous voulez, de la bonne conduite. Alors, ça donnait des choses très problématiques, et puis aussi un niveau d'adhésion assez faible, finalement, pour ceux qui n'ont pas vraiment réussi à transgresser le projet. Alors, évidemment, dans le cadre du jardin collectif, on a affaire à des réalités totalement différentes. Le jardin collectif, c'est la ferme de la Chine populaire, c'est le kolkhoz russe, enfin soviétique, qui est fatal au lopin et qui conduit à la famine, là, directement. Et enfin, la suppression du lopin, du jardin partagé en Chine, au moment de la révolution culturelle et la déportation, en quelque sorte, des paysans et d'ailleurs d'un certain nombre d'urbains vers les fermes collectives, a provoqué la mort de, enfin, entre 15 et 40 millions de gens, suivant les chiffres. Donc, c'est absolument catastrophique. Je dirais qu'aujourd'hui encore, le lopin est l'initiative qui accompagne la production, l'entretien, la mise en culture du lopin. Et représente 80%, comme je disais, de l'activité de subsistance humaine. Et donc, ça joue un rôle, bien sûr, économique et alimentaire, mais ça joue aussi un rôle en termes de dignité, en termes de sens de la vie, en termes de projet, en termes de développement de soi, en termes de culture au sens anthropologique du terme, finalement. Cultiver son jardin, c'est se cultiver soi-même, en fait. Et pour ça, c'est vraiment important le droit de cultiver soit aussi un droit d'autogouvernement, un droit d'initiative. Et évidemment, à partir du moment où tout est mis en commun, enfin, ou collectivisé plus exactement, et que les tâches sont compartimentées et que chacun est embringué finalement dans une chaîne de production dont il ne perçoit ni l'origine ni la finalité. C'est comme à l'usine, finalement, il y a quelque chose d'humain qui est fondamentalement perdu. Donc là, c'est pas du tout... Il y a une grande différence, voilà, entre ces jardins partagés dont les cultivateurs ou les jardiniers ont l'initiative et ces jardins imposés, fondés sur une division des tâches et une assignation à telle ou telle activité.
Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, ce sera le mot de la fin de cette conférence. Ben, on va encore une fois remercier Joël Zask pour avoir répondu à toute la diversité des questions. Et
je vous remercie aussi.
Remercier la Mèche, évidemment, de nous avoir invités.
Merci, Constance.
Mais c'est moi qui vous remercie. Et merci pour cet échange extrêmement riche et intéressant. Je donne rendez-vous au public jeudi 15 avril à 13h pour la dernière rencontre du printemps des SHS qui s'intitule « Vers la reconnaissance juridique et sociale de la criminalité environnementale ». Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi et encore merci à vous.